bonjour à tous. Au départ, il y a une formidable promesse, celle d'un enrichissement général. Cette promesse, c'est celle de l'économie de marché et de ses premiers théoriciens. Pour eux, la croissance doit permettre d'éradiquer enfin la misère. Pourtant, 2 siècles et demi après la richesse des nations d'Adam Smith, force est de constater que la pauvreté demeure un défi pour nos sociétés. Près de 700 millions de personnes dans le monde vivent encore avec moins de 2 dollars par jour. Et ce chiffre, qui reculait depuis 20 ans, recommence à augmenter avec la crise du Covid. Alors les économistes se sont-ils trompés? La science de la richesse peut-elle encore nous aider à penser la pauvreté? Voilà les questions qui vont nous occuper jusqu'à 15h. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour ce premier épisode de notre série consacrée à la pauvreté, nous avons le plaisir d'accueillir à distance 2 invités, Élise Huiry, professeure d'économie à l'université Paris-Dauphine et chercheuse affiliée au JIPAL, un laboratoire de recherche sur la pauvreté, et Patrick Mardella, professeur de sciences économiques à Sciences Po Lille et chercheur au laboratoire Clercé. À 14h50, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Élise Huiry et Patrick Mardella, bonjour.
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 Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un mot d'abord sur ce rapport de la Banque mondiale qui est sorti début octobre. La crise de la Covid pourrait faire basculer 150 millions de personnes dans l'extrême pauvreté d'ici à la fin de l'année 2021. Le coronavirus a mis un terme à 3 décennies de progrès, Élise Huiry.
Oui, effectivement, le coronavirus vient vraiment frapper de plein fouet beaucoup de personnes qui étaient déjà dans des situations assez précaires et qui, du fait de la crise du Covid et notamment de la perte d'emploi à cause des confinements et donc de l'arrêt de l'activité économique, se retrouvent en dessous des seuils de pauvreté, surtout parce qu'en fait, on est face à des personnes qui bénéficient pas de protection sociale. Donc c'est pas tellement un problème d'arrêt de la croissance. En vérité, c'est un problème de filets sociaux qui n'existent pas dans énormément de pays en voie de développement et de pays émergents. Et comme l'Inde, par exemple, évidemment, un des pays les plus concernés par à la fois la crise du Covid et l'augmentation de la pauvreté, parce que les filets sociaux n'existent pas pour permettre, dans les périodes de fermeture d'activité, de rupture d'activité, comme on l'a vécu depuis le mois de mars, d'avoir des revenus de remplacement, comme on dit dans les économies développées, permettant de remplacer, donc permettant de se substituer aux revenus d'activité. Donc là, on voit vraiment un gouffre entre les pays développés, les pays riches, qui ont cette protection sociale, alors beaucoup plus en Europe continentale d'ailleurs qu'aux États-Unis, évidemment, mais dans la plupart des pays émergents, c'est ça qui fait cruellement défaut actuellement et qui enfonce énormément de personnes dans la pauvreté à cause de l'arrêt de l'activité économique.
Ce qu'il faut quand même dire, Élise Huiry, c'est qu'avant même la Covid, la réduction de la pauvreté était déjà freinée par les conflits et le changement climatique.
Alors, les conflits et le changement climatique et justement ce manque, enfin, les conflits et le changement climatique sont évidemment des facteurs encore une fois, de rupture d'activité et donc le changement climatique pour des raisons différentes des conflits. Les conflits viennent directement interrompre les activités et détruire énormément de capital physique et humain et donc accélérer la pauvreté. Après, le changement climatique, c'est un effet beaucoup plus de long terme qui concerne les problèmes agricoles notamment qui sont causés par le changement climatique. Mais je dirais que ce sont pas les facteurs, enfin ce sont des facteurs auxquels des États qui sont bien développés avec des structures de redistribution et de mise en place d'une organisation sociale solidaire, on va dire, peuvent faire face. Donc si ces phénomènes de conflit et si ces phénomènes de changement climatique accélère la pauvreté là dans les années très très récentes, ce sont seulement parce que les États sont faibles. Donc j'en reviens à ma première réponse sur la protection sociale, hein. C'est vraiment une question d'organisation de l'État, d'institutions plus ou moins développées, soit on laisse les gens un peu livrés à eux-mêmes, auquel cas effectivement rapidement ce sont des chocs comme le Covid qui vont accélérer la pauvreté, soit au contraire, on organise un état fort, un état redistributif, et auquel cas, on n'aurait pas, on n'a pas ce lien entre le changement climatique, le Covid et la pauvreté.
On voit bien que ça soulève la question des liens entre la réduction de la pauvreté et la croissance économique, lien qui n'est pas évident pour vous, Élise Huiry. On va y revenir dans la seconde partie de l'émission. Mais d'abord, on dit souvent de l'économie, justement, qu'elle est la science de l'enrichissement et de la croissance. En réalité, Patrick Mardella, les économistes se sont toujours intéressés à la pauvreté?
Oui, on peut dire effectivement que les économistes se sont toujours intéressés à la pauvreté. L'économie, comme vous l'avez rappelé dans votre accroche, est née et a accompagné un mouvement tout à fait inouï dans l'histoire de l'humanité, qui est ce grand enrichissement, pour reprendre une expression de McCloskey, grand enrichissement qui a vu l'enrichissement généralisé des sociétés, et pas simplement l'enrichissement de quelques groupes au détriment d'autres. Et les économistes, à ce moment-là, ont effectivement formulé une promesse, une espérance de pouvoir sortir définitivement toute la population par couches successives de la pauvreté. L'économiste s'est intéressé à la pauvreté avec cette promesse d'éradication et de vaincre la pauvreté définitivement. Donc c'est l'avenir radieux ou l'avenir meilleur que les économistes nous ont promis. Effectivement, avec Adam Smith, cette idée d'une division croissante du travail, de toujours plus de rationalité en lien avec des marchés plus performants, qui devraient inclure toujours plus les différentes couches de la population et ne laisser personne sur le bord de la route. C'était effectivement la promesse, et la science économique est donc la science de l'enrichissement qui a pour contrepartie l'élimination de la pauvreté.
Et donc,
par contre, elle ne s'est pas intéressée aux pauvres. Ça, c'est autre chose. Les pauvres ont toujours existé, si je puis dire, dans les sociétés stratifiées, polysegmentaires. On a toujours eu des différences entre des riches et des pauvres, alors selon des statuts très différents au cours de l'histoire. Et les pauvres s'adressent aux riches, ils s'adressent pas aux économistes. Ils s'adressent aux riches, ils attendent quelque chose, ils demandent quelque chose. L'économiste fait un pas de côté où il prend un peu de hauteur, il a une posture de savant, une distanciation objective par rapport à la parole des pauvres, et il construit plutôt la pauvreté comme un problème, comme une sorte de maladie sociale qu'il convient de vaincre.
Un problème, alors même que si on regarde du côté de la religion chrétienne, en particulier chez saint François d'Assise, la pauvreté c'est une vertu, c'est ce que nous explique le père Éloi Leclerc au micro de Christine Goémé sur France Culture, c'était le 6 novembre 1982.
Et François, au fond, a retrouvé un courant qui est déjà dans la Bible et qui s'épanouit dans les béatitudes.
Et dans les psaumes.
Et dans les psaumes, oui, c'est le courant des pauvres de Yahvé, n'est-ce pas? En réaction contre un messianisme triomphaliste, déjà avec Jérémie, puis avec les autres prophètes, et dans les psaumes, comme vous venez de le dire, apparaît à tout un courant où le jour de Yahvé ne sera pas un jour de revanche, ne sera pas un jour de triomphe, mais ce sera le jour des petits, des humbles, n'est-ce pas, qui vont être l'objet de cette manifestation de bonté. Il s'insère, au fond, toute sa spiritualité s'insère dans le prolongement de ce courant des pauvres de Yahvé, de ces hommes qui, souvent, sur le plan social, étaient méprisés, parfois même opprimés, et qui trouvaient leur refuge dans Yahvé, en Dieu.
Cette vision des pauvres chez saint François d'Assise, Patrick Mandela, est finalement rejetée, remise en cause par les économistes classiques pour qui la pauvreté est donc ce mal à éradiquer, cette tare sociale et cette menace politique aussi.
Oui, le passage, l'extrait que vous nous avez passé là est très très intéressant, mais il faut faire une différence entre une pauvreté qui est choisie, une pauvreté qui est volontaire, une pauvreté souvent spirituelle qui permet d'accéder à un autre état de la conscience et une pauvreté qui, elle, est subie et qui constitue un malheur. Ce que l'économiste, lui, voit, c'est un malheur social, une injustice, un problème de justice, et il essaye d'y répondre en montant en théorie, en formulant une théorie générale sur le progrès des sociétés. Et il considère que, effectivement, les pauvres constituent une sorte de reliquat du passé, un peu obscur, une forme de pathologie ou de maladie, et que, avec plus de rationalité, on va pouvoir y apporter une solution. Encore une fois, j'insiste parce que c'est tout à fait inouï dans l'histoire de l'humanité, une solution définitive et radicale.
Et alors, pour lutter contre la pauvreté, selon les classiques et les physiocrates, avant eux, Élise Huillery, il s'agit de favoriser la croissance, mais aussi déjà la redistribution.
Oui, je crois qu'au fondement de l'économie se trouve absolument pas seulement la production, mais toujours aussi la distribution des richesses. Quand on étudie les pères fondateurs de l'économie, on voit toujours cette alliance entre production et distribution. Donc je pense que d'après l'enseignement de l'histoire de la pensée économique que j'ai pu recevoir, la distribution a toujours été pensée à côté de la production, avec chez certains auteurs, en tout cas, une vision qu'il y a un arbitrage à faire entre l'un et l'autre, au sens où faire de la redistribution serait un frein à la croissance. Et puis, chez d'autres auteurs, peut-être plus modernes, l'idée qu'au contraire, il n'y a pas à choisir entre redistribuer pour limiter la pauvreté et croître de manière à augmenter la taille du gâteau, mais que les deux peuvent aller de concert. Donc, il y a tout ce débat qui, à mon avis, vraiment est un débat qui a toujours traversé la pensée en sciences économiques, la pensée des économistes, entre croissance, distribution, est-ce que l'un peut aller avec l'autre ou est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement structurant en économie.
Alors, je voudrais justement qu'on écoute un extrait de l'essai sur le principe de population de l'économiste britannique Thomas Malthus, qui est paru en 1798. Malthus qui dresse le constat d'un échec des politiques d'aide aux pauvres, voilà ce qu'il écrit.
Pour remédier à la fréquente détresse des pauvres, on a établi des lois instituant un système de secours, et l'Angleterre s'est particulièrement distinguée en cette matière. Mais il est à craindre que si on a diminué par ce procédé les misères individuelles, on a par contre beaucoup étendu la pauvreté générale. On s'étonne dans le pays que malgré les sommes immenses collectées annuellement pour soulager les pauvres, leur détresse soit encore si grande. Certains émettent le soupçon que les fonds destinés à cet usage sont détournés. D'autres accusent les marguilles et les contrôleurs d'en engloutir la majeure part en festins. Tous s'accordent à penser que d'une manière ou d'une autre, l'administration en est bien mauvaise. En bref, le fait que même avant la cherté excessive de ces derniers temps, on levait annuellement 3 millions de sterling pour les pauvres, sans que pour autant la misère fût soulagée, est un sujet continuel d'étonnement. Mais un homme qui pousse l'observation plus loin que les apparences serait bien plus étonné si les choses étaient autrement. Et même si, au lieu d'un impôt de 4 shillings par livre, on l'élevait à 18 shillings, il n'en résulterait aucun changement essentiel.
Patrick Mardella, en quoi l'aide aux pauvres a-t-elle, selon Malthus, diminué les misères individuelles, mais étendu la pauvreté générale ?
Oui, alors dans l'extrait que vous venez de passer, Malthus s'en prend aux lois sur les pauvres, les poor laws, qui avaient été établies au tout début du XVIIe siècle, sous la reine Élisabeth Ier, entre 1601 et 1660. Et c'était des lois qui imposaient aux communes de s'occuper de leurs pauvres et qui avaient comme fonction aussi, il ne faut pas l'oublier, de fixer les pauvres dans les communes pour éviter des phénomènes de vagabondage qui causaient des troubles sociaux dans toute l'Angleterre.
C'était aussi un outil de contrôle social, c'est d'ailleurs d'abord pour ça qu'il est institué.
Voilà, voilà, c'est ça, c'était un outil de contrôle social, mais il faut quand même pas écarter l'idée d'assistance. La reine Élisabeth Ière était une reine très pieuse et elle souhaitait véritablement aider les pauvres. Le problème pour Malthus, c'est que il a une vision extrêmement dure de la question de la pauvreté et des pauvres. C'est que si on partage le gâteau, si je puis dire, ou le produit social, et que l'on en fait bénéficier ceux qui ont le moins contribué ou pas du tout contribué, eh bien, ils risquent de se multiplier, de se reproduire, de se multiplier, pensant que finalement, ce n'est qu'un problème de partage. Donc, il a milité dans toute son œuvre, il a milité pour abolir ces lois. Cette idée a été reprise par Ricardo, et on peut dire que l'abolition de la loi sur les pauvres ou des lois sur les pauvres en 1834 est le premier exemple dans l'histoire d'une loi qui a été prise sur la base d'une argumentation économique. Ça, c'est sur la base d'une théorie économique. Ça, c'est tout à fait exceptionnel, et évidemment, ça se reproduira au long de l'histoire qui suivra.
Alors même que l'histoire lui donnera tort, Patrick Mardella.
Alors même que l'histoire lui donnera tort, c'est-à-dire qu'effectivement, la pauvreté va changer de visage tout de même avec le 19e siècle. Ça va être une pauvreté qui va être associée à la relation au travail. C'est une misère ouvrière, une misère industrielle. Et effectivement, l'État va jouer un rôle de plus en plus important. Il va y avoir une socialisation et une institutionnalisation de l'assistance aux pauvres. On va mettre en place des mécanismes de plus en plus complexes et performants, mais qui reposent sur toute une bureaucratie dont l'élément de contrôle social n'est pas du tout absent, pas moins que dans les lois sur les pauvres du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et ça, c'est l'État-providence qui, après la Seconde Guerre mondiale, aura en charge la redistribution en direction de la pauvreté.
Mais ce que Malthus n'avait pas prévu, c'est que l'enrichissement allait entraîner un plus gros contrôle de la fécondité, Élise Huillery.
Alors, ça, je suis pas forcément capable de faire le lien entre l'enrichissement. On observe historiquement effectivement qu'il y a une corrélation très nette un peu partout entre l'enrichissement et une baisse de la fertilité, enfin c'est pas de la fertilité, de la fécondité bien sûr, qui relève d'un choix des femmes de participer davantage à l'économie, aux activités économiques et d'avoir moins d'enfants quand on est plus éduqué et qu'on a plus les moyens d'avoir un contrôle sur sa fécondité. Moi, je voulais revenir, parce que c'est très intéressant, le passage de Malthus que vous avez fait passer aux auditeurs, qui est extrêmement pessimiste sur les effets finalement négatifs de la redistribution sur la croissance. Alors, il évoque à la fois des problèmes de corruption, donc l'aide ne va pas là où elle devrait aller, c'est-à-dire dans les ménages les plus pauvres, mais aussi on sent derrière effectivement toute l'influence des théories qui inspirent Malthus et qui, selon lesquelles la redistribution, l'aide rendrait les gens feignants potentiellement et donc ne réglerait pas le problème, puisque finalement en aidant les plus pauvres, on les désincite à faire des efforts. Donc ça, c'est vraiment une théorie qui est très marquée idéologiquement et qui a beaucoup dominé, en tout cas dans les années 80, il y a eu un retour en force très très fort de cette idéologie, de cette théorie. Et puis l'idée aussi qui est un petit peu sous-entendue dans l'extrait que vous avez passé, qu'il y aurait potentiellement des effets aussi négatifs de taxer les plus riches, de rompre la dynamique des investisseurs, etc., et qu'on ferait fuir l'investissement, on découragerait les investisseurs et les entrepreneurs, les riches, en taxant pour donner à des pauvres, que ça rend feignant. Donc il y a toute cette idéologie qui anime ce discours-là. Et ce que je veux absolument signaler, parce que ça me paraît absolument crucial, c'est que ces théories, elles ont pendant longtemps prévalu parce qu'on a n'avaient pas les moyens empiriques de les tester et qu'elles paraissaient assez convaincantes sur le plan de l'argumentaire, qu'effectivement, si on nous donne de l'argent, bah pourquoi aller travailler ? Donc, ça paraît un peu du common sense, du bon sens, et donc ça convainc énormément, alors qu'en fait, les preuves empiriques que l'on a pu apporter, et notamment depuis 10-15 ans, à partir de à partir d'observations de ce qui s'est fait et des effets que ça a eu. On sait maintenant que le RSA, par exemple, qui est une politique évidemment de lutte contre la pauvreté, ne décourage personne travailler.
Et c'est on va très en parler, Élise Huillery, de effectivement tout ce que l'observation empirique a permis de comprendre et comment ça a battu en brèche un certain nombre d'idées reçues effectivement sur la pauvreté. Mais d'abord, peut-être un dernier mot, Patrick Mardella, sur le 19e et le début du 20e siècle, avec une autre vision qui est offerte sur les pauvres, d'abord par Karl Marx et ensuite par Keynes. Le pauvre, désormais, c'est le chômeur avec Keynes.
Oui, effectivement. Alors, Marx, déjà, historiquement, il est donc antérieur. Marx a une vision totalement différente du pauvre. On trouve bien sûr chez lui la pauvreté matérielle telle qu'elle est appréhendée par la théorie et l'idée d'augmenter la redistribution pour corriger la pauvreté, mais il y a surtout chez lui une idée très intéressante sur la figure du pauvre comme figure messianique qui annonce quelque chose d'autre. On le trouve dans les écrits de jeunesse, on le trouve aussi dans les écrits de la fin de la vie de Marx, où il fait apparaître que le pauvre, finalement, annonce quelque chose dans le rapport que nous devrions avoir dans une société juste, dans une société de plénitude et d'accomplissement de soi, qui est un rapport d'usage et pas de propriétaire. Donc il découpler la question de l'usage et la question de la propriété. Et ce qui est très intéressant chez Marx, c'est que le pauvre ne nous quitte pas. Le pauvre ne nous quitte pas, c'est pas parce qu'on élimine la pauvreté, c'est pas parce que on va vers un avenir radieux qui chez lui, vous le savez, est la société socialiste ou communiste, que les pauvres auront disparu. Mais au contraire, dans tout ce mouvement-là, le sens le plus profond de la pauvreté et de ce qu'est le pauvre va se révéler. Et ça, c'est très très important. C'est que Marx nous fait comprendre qu'il y a une vraie pauvreté, une fausse pauvreté, comme il y a une vraie richesse et une fausse richesse. Et finalement, ce que révèle la figure du pauvre pour Marx, c'est que notre plus grande richesse, c'est pas nécessairement des richesses matérielles, mais c'est le besoin d'autrui. Le besoin d'autrui, l'aide que l'autre nous apporte. Alors, ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que là, Marx, il tient debout. Il est d'une certaine manière, d'un côté, il a un pied dans l'économie politique et il nous annonce aussi un avenir radieux, même si on n'y va pas sur la même voie que chez Adam Smith, par exemple. Mais d'un autre côté, il nous dit aussi quelque chose de beaucoup plus profond sur le pauvre. Le pauvre attend une aide, un don.
Alors, c'est une autre vision.
La pauvreté et la redistribution.
C'est une autre vision, Patrick Mardella, en effet, que nous offre Marx. Mais il faut attendre les années 90, sans doute, pour que soient vraiment battues en brèche les grandes théories économiques dominantes sur la pauvreté. C'est avec les économistes, notamment Esther Duflo et Abhijit Banerjee, lauréat du prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel l'an dernier. C'est avec eux qu'une nouvelle approche de la pauvreté s'est fait jour, une approche qui prend donc ses distance avec les grands modèles théoriques, Élise Huillery.
Oui, exactement. C'est-à-dire que pour Esther Duflo, quand elle était étudiante à l'École normale supérieure, on était donc dans les années 90, elle a été, d'après je me fais le messager de ce qu'elle peut raconter, elle a été vraiment frappée du fait que l'enseignement était vraiment extrêmement théorique et très peu fondé sur les preuves empiriques, et que finalement les théories, on ne va pas dire qu'elles se valent toutes. On peut avoir évidemment des argumentations qui sont mieux faites que d'autres, et donc des théories plus convaincantes que d'autres, mais fondamentalement, elles pourraient toutes avoir raison. Et il s'agit ensuite d'un acte de foi, de dire voilà, moi je vais suivre tel modèle qui me dit que qui me prédit telle chose, et ou tel autre modèle qui me prédit. Là, on est vraiment dans l'idéologie, finalement. Donc, ce qu'elle a initié avec plein d'autres chercheurs de cette génération des années 90 et 2000, c'est de sortir de l'idéologie, c'est-à-dire de sortir de la théorie, De regarder les faits pour trancher en fait le débat grâce aux faits, grâce aux données, grâce à l'observation.
Alors prenons un exemple, si vous le voulez bien, Élise Huiry, je vous propose d'écouter Esther Duflo qui était invitée sur le plateau de France 2 le 13 janvier 2009 après sa leçon inaugurale au Collège de France intitulée « Savoir contre pauvreté ».
Ma démarche est avant tout une démarche d'évaluation, c'est-à-dire c'est d'essayer de travailler avec les acteurs de terrain qui peuvent être des ONG, qui peuvent être des gouvernements, qui peuvent être des firmes privées, qui essayent de faire des choses concrètement sur le terrain dans les pays en développement, et d'essayer de travailler avec eux pour évaluer l'efficacité de leurs idées et de leurs programmes. On accompagne l'équipe qui met en place le projet sur le terrain. Par exemple, si vous voulez savoir qu'est-ce qui est plus efficace pour que les enfants apprennent mieux à l'école ? Est-ce que c'est plus efficace de vous concentrer sur le soutien scolaire ? Ou est-ce que, comme c'est très à la mode dans beaucoup de pays en développement, est-ce qu'il faudrait mettre des ordinateurs dans les écoles ? Alors, pour savoir ce qu'il faut faire, ou savoir ce qu'on peut faire, ce qui coûte le plus cher, ce qui aide le mieux les enfants, on peut comparer, mettre du soutien scolaire dans certaines écoles, des ordinateurs dans d'autres écoles, voir les résultats des enfants à la fin, et voir si ça fait une différence, et quel projet est le plus efficace d'une part, et le plus efficace par rapport à ses coûts d'autre part.
Que vous inspire cet exemple pris par Esther Duflo et les Huiry, vous qui travaillez sur les politiques éducatives ?
C'est exactement ce que moi je suis chercheur au GIPAL, donc je suis exactement dans cette démarche qu'elle décrit, de se dire voilà, si je me place du point de vue du décideur public, du ministre de l'éducation du Burkina Faso ou de France, d'ailleurs les recherches se font de la même manière dans les pays développés, et il faut que j'ai un objectif politique, par exemple la réduction du chômage ou par exemple la réduction du décrochage scolaire. J'ai plusieurs théories justement qui me donnent des solutions possibles. Donc pour éliminer le décrochage scolaire ou le réduire en tout cas, est-ce que on doit investir dans des cours, des cours de soutien après le collège, ou est-ce qu'il vaut mieux au contraire travailler plutôt sur le type de pédagogie ou le type d'évaluation des élèves que mettent en place les enseignants, etc., etc. Donc on va avoir un brainstorming avec plein d'idées, et en fait au lieu de trancher comme ça, on sait pas trop comment, parce que le truc est à la mode ou que machin nous a convaincus, on va tester concrètement ces différentes politiques dans des établissements de manière à pouvoir vraiment en constater les effets.
Tester au niveau local et régional afin de pouvoir peut-être l'étendre à plus grande échelle si les résultats sont au rendez-vous.
Voilà, alors il faut pas le tester à un niveau trop local pour deux raisons. Déjà parce que les résultats qu'on obtiendrait, je sais pas moi, à Amiens pourraient ne pas se généraliser à Toulouse. Donc il faut essayer d'avoir quand même un échantillon un peu représentatif de la cible, par exemple les collèges REP ou ce genre de... Voilà, il faut avoir un échantillon qui représente à peu près la population d'origine, de la population cible. Et puis d'autre part, il faut pas non plus que ce soit à une échelle trop petite, parce que statistiquement, on a quand même besoin d'échantillons un petit peu élevés. C'est comme en médecine, on l'a vu avec toutes les histoires de vaccins, de Covid et de traitements, etc. Il faut des échantillons un petit peu larges pour pouvoir en tirer des conclusions statistiques robustes. Donc, en général, on met en place des politiques sur une cinquantaine de collèges ou une centaine de collèges. Et puis, on va comparer avec une autre politique mise en place dans d'autres collèges. Et on va suivre les élèves un an, deux ans, trois ans s'il le faut, en fonction de l'objectif de politique publique que l'on se donne. Et puis, au bout d'un an, deux ans, on pourra rendre des conclusions robustes, empiriques, pour dire voilà quelle est la solution qui atteint le mieux l'objectif.
Et alors, quels ont été les effets de cette méthode empirique, de ces recherches menées donc par le GIPAL et son réseau de laboratoires ? Est-ce que cela a permis de mieux lutter contre la pauvreté, Élise Huiry ?
Alors, je pense qu'on a à la fois des très bons exemples de tests qui ont été faits avec sur certaines politiques et dans certains pays, et qui ont vraiment donné lieu à une généralisation de certaines interventions qui se sont avérées extrêmement efficaces. Donc je pense par exemple au Kenya, au fait d'avoir testé l'impact de moustiquaires, du prix auquel il fallait, le prix optimal auquel il fallait distribuer les moustiquaires, et qui a été étendu dans tout le pays. Il y a une autre politique de déparasitage en Inde qui a été aussi généralisée et qui avait donné des très bons résultats en Afrique et en Inde, les deux, concernant la participation des enfants à l'école. Mais on a aussi, hein, faut pas non plus voir tout comme dans un monde un peu idéal, on a aussi évidemment parfois des conclusions qui ne sont pas suivies par les gouvernements, parce que les gouvernements soit s'accrochent à une idéologie, soit, enfin en général c'est un peu ça qui cause le manque d'appropriation des résultats, on n'arrive pas à convaincre avec les résultats.
Ou des faits que l'on observe au niveau local et qui ne marchent pas à un niveau plus national.
Alors, de toute façon, nous, ce qu'on recommande toujours au JIPAL, hein, c'est de soit faire un essai au départ qui, justement, a une représentativité nationale. Si c'est pas le cas, il faut répliquer. Parce que si c'est pas le cas, on se sentirait pas à l'aise de dire, ben voilà, ça a marché à tel endroit et vous allez pouvoir le mettre en place dans le monde entier, ça va faire pareil. Donc, on est très conscient des limites en termes de généralisation et si le protocole de recherche n'a pas bien mis en place ce qu'il fallait pour que la généralisation soit possible, dans ce cas-là, il faut répliquer de manière à s'assurer que les résultats sont
fiables,
sont transférables.
Et voilà. Transférables. Ces approches dont nous parle Élise Huiry, ici, Patrick Mardella, est-ce qu'elles offrent des représentations renouvelées de la pauvreté et des pauvres, selon vous?
C'est une question qui n'est pas facile, je ne crois pas. Je suis assez frappé par la manière dont Élise Huiry a présenté d'abord les théories au début de sa réponse, en disant que les théories étaient identiques ou tout avait raison. Je pense pas qu'on puisse dire que toutes les théories comme les vaches sont grises. Il y a des différences importantes entre les théories. Ce qui est très très intéressant dans ce qui a été dit, c'est que on descend à un niveau très micro-institutionnel, on descend au niveau local et les chercheurs du JIPAL vont rencontrer les pauvres. Donc si on revient sur ce que je disais tout à l'heure, l'économiste ne va pas rencontrer les pauvres, on est dans autre chose qui est pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui est très très bien fait et qui nous apprend beaucoup de choses. Mais l'historien de la pensée économique que je suis fait un lien très étroit entre la science économique et la théorie générale. Qu'elle soit au niveau micro ou au niveau macro, on a toujours de la théorie générale. On a des hypothèses, on a des axiomes, on procède à des déductions rationnelles et puis on regarde ensuite comment conseiller les politiques. Là,
donc
la démarche
pas...
est complète. Complètement différente, oui. Complètement différente, et qui est en rupture complète avec l'histoire de la pensée économique. J'en fais pas un reproche, ça n'aurait pas de sens. Je ne fais que le constater. Est-ce qu'il faut donner un autre nom que science économique ou économie politique à ce qui est fait? D'abord, ça ne concerne pas et ça n'intéresse pas les pauvres auxquels cela s'adresse. Ça ne s'intéresse qu'aux épistémologues, aux économistes ou aux historiens de la pensée.
Mais c'est intéressant de se poser la question, Élise Huiry. Est-ce que c'est encore véritablement de l'économie ce que l'on pratique au JIPAL?
Oui, je voudrais corriger deux choses. Premièrement, sur mon intervention précédente, quand mon propos n'était pas de dire que les théories se ressemblaient toutes, étaient toutes grises. Au contraire, elles sont souvent très blanches ou très noires, justement. Mon propos était de dire que sur le plan théorique, elles ont toutes une potentielle vérité et que la démarche, c'est de les tester pour pouvoir trancher justement entre celles qui sont justes et celles qui sont fausses par les faits plutôt que par un acte de foi. C'est ça que j'ai voulu dire. Alors après, pour rebondir maintenant sur est-ce qu'on est encore dans la science économique quand on fait ce travail de terrain? En fait, il faut bien clarifier qu'on ne fait que tester des théories. Donc on a toujours en tête une théorie au départ. Par exemple, si on teste le RSA, on va tester la théorie que le RSA va potentiellement diminuer l'offre de travail des personnes qui le touchent, parce que la théorie voudrait que si vous avez un transfert
d'argent, soit moins incité à travailler.
Voilà, que vous êtes moins incité à travailler, que dans l'arbitrage travail-loisir, le fait d'avoir un transfert va diminuer l'offre de travail. Donc on est complètement dans la théorie micro-classique d'offre, de demande de travail, des incitations. Et donc, l'expérimentateur a énormément besoin de bien être formés en théorie pour arriver sur le terrain avec des hypothèses précises et pouvoir les tester au travers de la mise en place d'un protocole qui permet de comparer avec sans RSA le monde, qu'est-ce que ça change, et de poser des questions pour bâtir un questionnaire qui réponde exactement aux hypothèses qui sont en jeu.
Donc cela reste bien de l'économie, mais alors, comme je le disais au début de l'émission, la crise du coronavirus risque d'entraîner une explosion de la pauvreté dans le monde. Quels sont les outils qui nous permettent de la mesurer et comment penser la lutte contre la pauvreté dans un monde sans croissance? On en parle dans un instant.
Un petit gars marchait dans la rue, un coin pas cher de Ramonville. Roulouk la carte, pas le menu, pas un bal, t'as bien vu. File-moi un bal, file-moi un bal, file-moi un bal. J'ai vraiment la dalle. Demanda au garçon de coin, frugal repas, j'étais commandé. Tout le client est estomaqué, en si petit gars autant infamé. File-moi un bal, file-moi un bal, file-moi un bal. J'ai tellement la dalle.
Petit gars de Calvin Russell sur France Culture. L'économie n'est-elle que la science de la richesse ou permet-elle de penser la lutte contre la pauvreté? C'est notre sujet aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho. Nous sommes toujours en compagnie des économistes Élise Huillery et Patrick Mardella. Alors avant de voir comment on peut penser la lutte contre la pauvreté dans un monde sans croissance, revenons sur les indicateurs qui permettent de mesurer la pauvreté. Ce sont des indicateurs qui ne sont pas dénués d'idéologie, Patrick Mardella.
En fait, tous les indicateurs que nous construisons à l'aide de statisticiens sont des formes d'objectivation de la pauvreté et donc constituent, en même temps que des instruments de savoir, aussi des instruments de contrôle et donc de pouvoir. Donc effectivement, il n'y a jamais des instruments ou des indicateurs qui pourraient être considérés comme étant tout à fait neutres. Il y a une histoire des statistiques, il y a une histoire des critères et des mesures de la pauvreté, et c'est une histoire qui est indissociable d'une histoire du contrôle social exercé sur ces populations.
Alors on peut s'appuyer sur le concept de pauvreté absolue ou le concept de pauvreté relative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence, Élise Huillery?
Oui, bien sûr. Donc la pauvreté absolue, c'est une pauvreté qui est pensée en termes de quelles sont les ressources qui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins de base, ses besoins essentiels. Donc on inclut évidemment toujours le fait de se nourrir et aussi un minimum pour se loger, se vêtir. Ça, c'est la pauvreté absolue avec la fameuse référence de la Banque mondiale du seuil de 2 dollars par jour et par personne pour subvenir à ses besoins de base. Mmh. Et puis là, il y a le concept de pauvreté relative, qui est un concept de à quelle distance est-ce que je me situe de le reste de la société. Donc, on définit en Europe, en France, mais en Europe plus généralement, le seuil de pauvreté à 60% du revenu médian, c'est-à-dire le revenu qui sépare la population en deux parties égales. Et on fixe la pauvreté au fait d'être en dessous de 60% de ce revenu médian, c'est-à-dire en France concrètement, en dessous de 1 000 euros par mois et par personne, enfin équivalent, enfin oui, par mois et par personne pour une personne seule, parce que le revenu médian est à 1 700 euros. Et donc, si on est en dessous de 1 000 euros, on est trop loin du revenu médian, c'est-à-dire qu'en fait, on est trop loin du style de vie de la société dans son ensemble. Et donc, c'est cette dimension relative, le fait d'être trop loin du reste de la société, nous rend pauvres relativement aux autres.
Mais est-ce que dans les deux cas, on a cette approche, n'a pas ces deux approches n'ont pas des limites dans le sens où on définit des normes et des valeurs qui ne sont pas nécessairement celles des populations dont on parle, les Uri?
Alors, chaque société, justement, se choisit un peu sa norme en fonction de ce qui est pertinent pour lui, à la fois en rapport avec son économie et ses valeurs. Je prends trois exemples pour clarifier. En Europe, on a plutôt la valeur de l'égalité et, en tout cas, on considère, et les gens ont une très forte préférence pour l'égalité relativement à d'autres cultures. On s'indigne de trop gros écarts et c'est quelque chose de très important. D'où la pertinence de cette pauvreté relative comme indicateur principal. Alors que, évidemment, en Afrique, par exemple, pour prendre un autre exemple, la notion d'égalité, d'inégalité, on va dire, est encore un peu loin des préoccupations immédiates des personnes qui ont plus un souci de subvenir à leurs besoins essentiels, d'où le choix plutôt d'un critère de pauvreté absolue. Et puis, il y a une situation que je trouve très intéressante, qui est la situation américaine, où on pourrait avoir la même préférence pour de moindres inégalités comme en Europe, mais ce n'est pas la culture américaine qui est basée sur d'autres valeurs. Et ils choisissent, alors même que c'est une économie extrêmement riche, de définir la pauvreté avec un seuil absolu et non pas un seuil relatif comme en Europe. Et on voit ici la différence idéologique qu'il y a derrière. Il y a un moindre souci pour l'égalité et un plus grand souci pour la liberté économique, etc. Donc si quelqu'un arrive à manger, il n'est pas pauvre.
Alors ce que l'on comprend, Patrick Martella, c'est qu'il faut sans doute plusieurs indicateurs différents pour prendre la mesure de la pauvreté. Et évidemment, le PIB par habitant ne suffit pas. C'est déjà ce que disait Amartya Sen lorsqu'il a introduit la notion d'IDH, d'indice, cet indice de développement humain.
Oui, la pauvreté est un phénomène multidimensionnel et donc on doit, pour en s'en faire une image plus précise, plus correcte, multiplier les critères. Ça c'est certain. Mais ce qu'il y a derrière la construction de tous ces indicateurs, de tous ces critères, c'est tout de même l'idéal d'un individu autonome, rationnel, qui est capable de se projeter sur un avenir, en même temps que la société dans laquelle il se situe. Or, le pauvre ne correspond pas à cette image de l'idéal. Il est dans la dépendance, il est dans l'hétéronomie, il n'arrive pas à se projeter. Et donc, tous ces critères cherchent à, finalement, identifier par quels différents côtés est-ce que le pauvre ne correspond pas à cet idéal, pour ensuite mettre en place un certain nombre de mesures d'aide publique, d'aide sociale, en vue de faire rentrer, je dirais, ce pauvre dans le moule de ce que la société éclairée par les Lumières, parce que tout ça remonte au XVIIIe siècle, attend de tout un chacun, de tout citoyen, c'est-à-dire une contribution positive à une œuvre ou un œuvre globale qui est effectivement la prospérité et l'enrichissement.
Alors justement, pour la présidente d'ATD Quart-Monde, Claire Hédon, il ne suffit pas de mettre la main à la poche pour lutter contre la pauvreté.
L'argent est quelque chose d'important, certes, mais ce n'est pas tout. On a commencé à aborder la question du regard qu'on peut avoir sur les personnes en situation de précarité. Vous profitez d'un système et toutes ces questions. Mais derrière, il y a aussi, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour vous retrouver dans cette situation-là ? Donc une question de culpabilité. Et là, je trouve ça, moi, monstrueux. Parce que quand on se penche sur la question, c'est la société. Donc l'argent ne fera pas tout. Le regard qu'on a sur ces personnes est absolument essentiel. Et c'est là qu'on a tous un rôle à jouer. Et je vous promets que cette question du changement de regard, elle doit être quotidienne. On limite les gens à des besoins logement et nourriture. Et figurez-vous qu'ils ont, comme nous, besoin de culture, qu'ils ont comme nous besoin de beau, et limiter les gens à un toit et de la nourriture, là on se trompe complètement et on les... Je trouve que c'est pas digne de regarder cette question de la lutte contre la pauvreté que par cet aspect-là.
Le combat contre la pauvreté passe aussi par un changement de regard sur les plus pauvres et les huileries, et c'est là que les sciences économiques et sociales ont un rôle à jouer.
Oui, tout à fait. C'est très important d'avoir entendu cette parole. C'est très important, effectivement, malgré que les indicateurs soient fondés sur des critères monétaires, et c'est leur grande limite. C'est très important d'intégrer dans la lutte contre la pauvreté tout ce qui n'est pas monétaire. Je voudrais rappeler que ça fait quand même plus de ça fait 50 ans que Easterlin, l'économiste, a mis en évidence la disjonction entre le bien-être et le revenu. Ce qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin, 1974. On observe que, certes, l'argent contribue au bonheur, mais il ne le fait pas entièrement. C'est-à-dire que passer un certain niveau de revenu, déjà, c'est plutôt pour les riches, l'accroissement de revenu ne va plus avec un accroissement de bien-être. Alors, ça, c'est super important, parce que ça veut dire que, quelque part, on peut taxer sans avoir trop peur d'enlever du bien-être aux plus riches. Et de l'autre côté du spectre de la distribution, évidemment que la façon dont on dont on va gérer dans les aides sociales, de la façon dont on va culpabiliser ou pas culpabiliser, avoir un regard respectueux ou un regard empreint de pitié ou de charité, voire de mépris, est absolument fondamental dans la, dans la façon dont on pense les politiques de lutte contre la pauvreté et pas seulement le transfert monétaire ou le service public en tant que tel.
Mais alors pour beaucoup d'économistes, si jamais on n'arrive pas à lutter contre la pauvreté, c'est parce que finalement nous n'avons plus suffisamment de croissance. Et effectivement, ce que l'on observe depuis les années 80, c'est que depuis qu'il n'y a plus tellement de croissance dans les pays riches, depuis la fin des 30 glorieuses, les inégalités ont recommencé à augmenter, Patrick Bardella.
Oui, il faut effectivement replacer, je crois, tout ça dans la perspective longue. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. On est probablement en train d'assister à un grand retournement, à un grand changement. Je crois que le Covid, sur lequel vous avez ouvert l'émission, n'est qu'un symptôme d'une multiplication des crises qui sont en train qui font apparaître un épuisement, en fait, du modèle qui a été ouvert, qui a été inauguré à partir du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. J'évoquais tout à l'heure le titre d'un livre de McCloskey, le grand enrichissement. Je crains que nous ne soyons entrés dans une nouvelle période, un nouvel âge, qui est celui du grand appauvrissement. Et on a énormément de signes à quoi on peut identifier et sur lesquels on peut appuyer cette appréciation.
Lesquels, par exemple ?
Eh bien, la dégradation de l'environnement, la perte de forme de vie, de la biodiversité, toutes les questions écologiques, en fait, ne sont qu'un signe de l'appauvrissement de l'environnement, du milieu, de la terre sur laquelle nous vivons. On voit que les coûts aujourd'hui, qui sont des coûts qui ne sont pas intégrés dans les prix que les marchés parviennent à fixer, les coûts excèdent très largement les avantages ou les bénéfices collectifs de la multiplication des échanges, de l'extension des marchés et de l'accroissement de la division internationale du travail.
Et en même temps, on voit la croissance stagner dans les pays riches, mais pas dans les pays en développement, Patrick Bardella, ou du moins pas dans un certain nombre d'entre eux.
Oui, mais ça, c'est un effet de rattrapage. C'est un effet de rattrapage classique. On l'a vu depuis deux siècles par vagues successives de différents pays, le pourtour européen, les États-Unis, l'Australie, puis ensuite l'Asie du Sud-Est. Donc, ce n'est qu'un effet de rattrapage qui est lié au déplacement de l'atelier, en gros, de la division du travail. Mais ce qui apparaît aujourd'hui, je crois, qui est le plus frappant, c'est que les bénéfices de cette division du travail sont inférieurs au coût social total qu'engendre ce mode d'organisation, et qu'en plus ces bénéfices ou ces profits sont accaparés par une frange de plus en plus étroite de la population mondiale, puisqu'aujourd'hui il faut poser le constat, le diagnostic en termes de justice mondiale, c'est-à-dire les quelques super riches, les 1% ou même à l'intérieur des 1%.
Mais alors je voudrais entendre Élise Huillery là-dessus. Est-ce que vous partagez cette idée d'un monde sans croissance? On va vers un monde avec une croissance faible. Et quel impact, selon vous, ça va avoir sur la lutte contre la pauvreté, Élise Huillery?
Alors, premièrement, je ne pense pas qu'on va vers un monde avec une croissance faible. Là, je pense que on manque de recul, on manque de perspective historique. On est dans un moment, alors là, sans parler évidemment de la décroissance de cette année qui est complètement exceptionnelle puisqu'on a la crise sanitaire. Si on prend globalement les 20 dernières années, on est sur des taux de croissance 1-2%, bon, parfois 2,5% quand ça va bien, mais on va dire qu'on est entre 1 et 2% de croissance par an. C'est complètement normal et c'est complètement satisfaisant, on va dire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout besoin d'avoir une croissance de 3, 4, 5%. Comme on a pu avoir dans seulement une période complètement exceptionnelle de l'histoire qui sont les 30 glorieuses, mais en dehors de cette période complètement exceptionnelle, on n'a jamais eu des taux de croissance de 3, 4, 5%. Et là, effectivement, il y a le rattrapage de certains pays comme la Chine, etc., avec des taux de croissance incroyables. Mais il ne faut pas que ce soit ça. Il ne faut pas que les gens pensent qu'il faut des croissances de ce type pour réduire la pauvreté. Pas du tout. On est à des niveaux de croissance, même si on restait à 1-2%, on est largement à des niveaux de richesse qui sont suffisants pour organiser une vraie solidarité de manière à lutter contre la pauvreté. Il y a, en fait, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que depuis les années 80, où on a des taux de croissance moins élevés, on a des inégalités qui augmentent. C'est absolument pas parce que la croissance est moins élevée que les inégalités augmentent, c'est parce que dans beaucoup de pays, on a vu le retour en force de politiques très libérales, de taxation très faible et du moins-disant fiscal, où on baisse de plus en plus les taux de taxation sur les plus riches et sur les entreprises. Et on a vu, du coup, une déconstruction des politiques sociales. Alors, je ne parle pas de la France, parce que la France a énormément résisté sur le front de la protection sociale et de la redistribution, mais je parle du Royaume-Uni, je parle de l'Allemagne, je parle de la Suède également, qui a déconstruit, qui a vu son taux de pauvreté augmenter. Je parle des États-Unis, bien sûr. Donc, il ne faut pas associer la pauvreté croissante et les inégalités croissantes avec la croissance ou sa faiblesse, mais avec un manque de volonté politique pour redistribuer la richesse qui est suffisamment
donc,
importante.
Donc, même une croissance faible nous permettrait de lutter contre la pauvreté. Patrick Mardella, je voudrais vous entendre là-dessus. On arrive à la fin de cette émission et puis vous demander en même temps si vous considérez que les grandes théories économiques ont échoué à lutter contre la pauvreté et si aujourd'hui l'économie, cette science de la richesse dont on parle depuis le début de l'émission, peut devenir la science des plus pauvres et nous apporter davantage de réponses.
Oui, ça fait beaucoup de questions.
Mais beaucoup de questions.
Je voudrais juste dire que je partage tout à fait le constat qu'a fait Élise Huillery. Effectivement, les politiques libérales, le désengagement de l'État, la baisse de la fiscalité, etc., tout ça, c'est un facteur essentiel du creusement des inégalités et de la montée de la pauvreté. Mais ce que j'étais en train de dire, ce n'était pas que la croissance allait s'arrêter. Peu importe, d'ailleurs, la question n'est pas là. On sait tous quelles sont les limites des mesures de la croissance. Le problème plus général que je cherchais à faire apparaître, c'est que cette croissance se fait à coût croissant. Les coûts augmentent et ces coûts ne sont pas pris en compte ou sont pas pris en décompte de la croissance. Et donc, en fait,
notamment les coûts environnementaux.
Voilà, c'est ça. Et quand je parle de grand appauvrissement, je veux dire que c'est un grand appauvrissement de la planète, de nos conditions d'existence, de grand appauvrissement aussi pour l'humanité. Donc ça se traduira, ça se traduit déjà, on le voit, par cette pauvreté ressentie. Et l'exemple que nous vivons aujourd'hui, même je comprends son caractère exceptionnel, mais ce dont on manque le plus aujourd'hui, c'est peut-être pas tant de la fermeture des magasins que des contacts avec nos proches, avec nos amis, avec nos semblables finalement. Et c'est là que la pauvreté et l'extension des marchés s'est accompagnée en fait d'un mouvement d'enclosure, d'une destruction du commun et en même temps d'un appauvrissement de nos relations humaines. C'est simplement ça que je cherchais à faire apparaître.
Et c'est cette vision de la pauvreté et de la richesse, cette vision philosophique que l'on a cherché aussi à expliquer tout au long de cette émission et son impact sur l'économie. Un grand merci à tous les deux, Élise Huillery et Patrick Mardella, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et le journal de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffany et bonjour à tous.
Alors que le président de la République doit s'exprimer ce soir pour préciser la suite du second confinement, les économistes aussi réinvestissent le terrain des politiques publiques et le débat théorique. Leur souci principal aujourd'hui, l'acceptation sociale des restrictions.
Et oui, des confinements partiels ou confinements allégés, dit un conseiller de Matignon aux Parisiens. L'exécutif peaufine les éléments de langage de la prochaine étape et pendant ce temps, les économistes travaillent à sortir de l'antagonisme entre le sanitaire et l'économie. D'abord, rappelle Mathieu Plane de l'OFCE, si la prévision macroéconomique, celle du PIB, est plus aléatoire, les données fines de déplacement ou données bancaires ont rendu les analyses microéconomiques plus pertinentes. Et puis, pour Charles Viploche dans Le Monde, les économistes ont même fait des progrès fulgurants, notamment grâce à l'intégration des modèles épidémiques, un véritable dialogue, dit-il, avec les scientifiques, où l'objectif commun est de ne pas engorger les services d'hospitalisation. Alors certes, ajoute Mathieu Plane, la réponse des autorités non mécaniques échappe aux prévisions, mais elles n'en sont que plus utiles pour appuyer des décisions expérimentales dans une crise qui, de toute façon, met notre démocratie à l'épreuve. Mieux vaut mal voir donc que ne rien prévoir.
Et c'est donc le retour des préconisations des économistes, Xavier ?
Oui, s'ils avaient été surpris par le premier confinement, cette fois les économistes veulent anticiper. Et contrairement aux recommandations d'Esther Duflo il y a 2 mois, le confinement ne fait plus recette. Trop coûteux, dit Patrick Artus de chez Natixis, qui dénonçait dans Le Monde une gestion dénuée de toute anticipation qui pilote la pandémie, écrit-il, comme on pilotait l'inflation dans les années 70, attendant que les prix s'emballent pour agir. Le fatalisme, donc, à défaut de mesures socialement acceptables. Et c'est pour résoudre cette épine de l'acceptation sociale que Christian Gollier et d'autres proposent un déconfinement différencié selon les populations, de la même manière que le font les épidémiologistes dans leur modèle SIR, c'est-à-dire les relations entre personnes saines, infectées et rétablies. Car le problème d'un confinement indiscriminé, c'est que son allègement partiel revient à faire payer l'activité plus rapide de certains par des restrictions plus longues pour d'autres, alors que confiner avec les populations à risque serait un chemin, dit-il, pour que le gouvernement n'est pas à choisir entre l'économique et le sanitaire, économiste juge de paix donc.
Pourtant, ces prises de position entraînent un vif débat sur ce que l'on appelle le prix de la vie.
Et oui, au sermon des économistes orthodoxes, hein, soucieux de la croissance, répond le cœur des économistes néo-keynésiens préoccupés de l'humanité. Le débat s'est cristallisé autour des calculs d'Artus et de Gollier, éloigné du politiquement correct, écrit Le Monde, qui donne en fait une idée du coût du confinement par rapport aux bénéfices de vie sauvée. C'est 6 millions d'euros le prix de chaque vie épargnée, comparativement 6 fois plus pour le Covid que pour les autoroutes, dit Patrick Artus, qui glisse ce qui fait cher la vie. Cette notion de prix de la vie n'est pas nouvelle, hein. C'est un outil de politique publique depuis les années 60, appellation en fait un peu impropre, car en réalité, elle compare le coût de la mort, c'est-à-dire le coût social de la perte d'un individu, et le prix de la vie, c'est-à-dire ce que l'on est prêt à mettre pour minimiser le risque de mort, par exemple acheter une voiture avec plus d'airbags ou installer un terre-plein central sur une nationale. Mais l'utilisation de cette vie statistique, c'est l'appellation officielle dans les politiques sanitaires, ne fait pas consensus. Ce sont les eaux glacées du calcul égoïste, dénonce avec Karl Marx Pierre Chaillant dans l'Humanité. Ce sont celles de l'économie dominante, orthodoxe, parfaitement néoclassique, qui ignore les difficultés du système de santé, ajoute Jean Gadret dans Alternative économique, et qui, plus encore, affirme Jean-Marie Haribet, majore le coût d'une vie sauvée et minore ce qu'elle aurait pu produire, exagérant ainsi la perte de rentabilité due aux restrictions. Alors, malentendu ou opposition de fond, le débat est ouvert.
Et la crise a en tout cas fait émerger une notion de coût social.
Oui, coût social plutôt qu'économique, insiste Camille Landais de la London School of Economics, pour tenir compte d'une adhésion des populations qu'il dit déterminante dans l'efficacité des mesures. De là des stratégies originales, le Belge Mathias Vatripoint s'inspire des méthodes de la sécurité routière pour proposer un objectif d'incidence maximale de 10 cas pour 100 000 habitants qui agirait comme une limitation de vitesse, ce qui implique de renforcer le dépistage, financer l'isolement et communiquer en amont sur les mesures. Plus innovante encore, et l'idée d'un permis à points du R0 de Camille Landais, mélange de techniques sophistiquées de maîtrise des marchés, le cap and trade inspiré des quotas carbone et de validation populaire. En choisissant cette fois collectivement et à l'avance un ensemble de restrictions dès que le R0, c'est-à-dire la capacité de diffusion du virus, dépasse le 1 fatidique du seuil épidémique. L'idée étant que de petites restrictions ciblées valent mieux que de grands coups de frein, comme en conduite automobile. Avant de réappuyer sur l'accélérateur, il faut d'abord encore un ABS pour éviter les dérapages droit dans le mur. Et donc, plus on se confine mieux, moins on se confine plus.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho. C'était donc Entendez-vous l'écho, une émission préparée par Marguerite Caton, Mathilde Tonfourcade, Léa Sabourin, Ali Etovine et Antoine Jourdan, à la réalisation Anne Depelchin, à la technique aujourd'hui Nasser Moussaoui. Demain, notre système social réussira-t-il à limiter l'explosion de la pauvreté en France? Nous poserons la question à Daniel Verger, responsable au Secours catholique, et Hélène Périvier, économiste à l'OFCE.